Paris sur Terre, Sonia Kronlund.
Souvent, quand je raccroche, je me dis « Ah, mais je suis vraiment débile, j'ai dit ça et ça, il faudrait que je lui dise la prochaine fois que c'est plus compliqué que ça, etc. » Mais bon.
Pendant presque 3 mois, j'ai téléphoné 2 fois par semaine à Olivier Grondeau, un jeune Français arrêté en octobre 2022 dans le sud de l'Iran et détenu depuis dans les geôles iraniennes à Shiraz puis à Téhéran. Grâce à un opérateur et des cartes prépayées, il m'a appelé le mardi et le jeudi à 11h30 depuis la prison d'Evin dans la capitale pour me raconter son arrestation, son simulacre de procès pour espionnage et les conditions de sa détention. Il a d'abord été gardé au secret pendant plus de 2 mois dans la sinistre section 209 du ministère des Renseignements. Ici, les prisonniers ne sortent pas de leur cellule ou seulement les yeux bandés pour aller aux toilettes et 1 ou 2 fois par semaine, 30 minutes, dans une cour minuscule. Ils ne reçoivent aucune visite ni coup de téléphone. Leur cellule est éclairée 24 heures sur 24. C'est là que se trouvent encore Jacques Paris et Cécile Kohler, 2 autres otages français, dans des conditions qui, pour certaines, relèvent en droit international de la torture, a affirmé le ministère des Affaires étrangères français. Puis, Olivier, lui, a été transféré en détention, sans rien savoir des négociations dont il fait l'objet entre les gouvernements français et iraniens. C'est le 3e épisode tout de suite de ces entretiens téléphoniques enregistrés il y a quelques semaines, au début du printemps. Vous pouvez l'écouter comme ça ou après avoir écouté les 2 premiers, enfin comme vous voulez. Voici donc Olivier Grondeau, je vous appelle depuis la prison d'Evin, le dernier informé, tout de suite dans Les Pieds sur Terre.
Allô ?
Oui, bonjour Sonia, c'est Olivier Théran. Je suis confus d'avoir autant de retard. J'ai remarqué à mes dépens que l'horloge de la bibliothèque avait des minutes de retard.
Non, mais je m'inquiétais. Je suis contente de vous parler, au contraire. Comment ça va ?
Écoutez, ça va, mais en fait, la dernière fois, ouais, c'était un appel un peu sous tension. C'était le moment où nos camarades avaient été envoyés à prison où il y avait beaucoup de risques d'exécution. Donc.
Et alors ?
Écoutez, maintenant, ça va. C'est leur situation se... On va pas dire qu'elle se régularise, mais disons que la menace devient ordinaire. Donc il y a un risque, mais il est moindre que la semaine où ils sont transférés.
Pardon Olivier, mais j'entends vraiment les gars derrière. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?
Ah, attendez 2 secondes, je me décale. 2 secondes. Ils sont en train de démonter les rideaux dans ma chambre.
Ah bon ?
Pour faire un petit ménage de printemps. Il fait doux aujourd'hui, il fait doux, je crois. C'est vraiment le premier jour du printemps d'un coup. Le soleil est très agréable et puis vraiment l'air froid de ces dernières semaines semble nous avoir quitté. Bon, c'est mon premier printemps à Téhéran, hein, donc je sais pas. Il y a Nowruz qui arrive, le nouvel an iranien, et du coup, ça va être mon 4e Nowruz en Iran. J'ai eu la chance de vivre un Nowruz libre. C'était formidable, c'était lumineux, c'était magnifique. C'était l'époque des champs de coquelicots, c'était très beau. Vous voyez tout de suite que les Iraniens, ils attendent que le week-end pour aller se planquer à la campagne, pour boire des bières, écouter de la musique et rigoler dans un semblant de joie et de sérénité.
Et la passion pour le pique-nique ?
Ouais. C'est la première chose que j'ai vue, moi, dès mon premier voyage en Iran, parce que j'étais vraiment autostoppeur à la route et je dormais dans les parcs, dans les villes que je souhaitais visiter. La plupart du temps, je plantais la tente ou juste j'installais ma couverture sur une pelouse ou alors sur un petit kiosque, une fois que j'ai compris que c'était plutôt sur les kiosques en béton qu'il fallait dormir, que c'était comme ça les convenances dans les parcs iraniens. Du coup, j'ai tout de suite vu que c'était formidable, que j'étais pas tout seul à camper à la nuit tombée dans le parc municipal, mais qu'il y avait des familles entières et des petites filles qui se baladaient avec les brochettes de kebab. C'était formidable de voir qu'il y avait un environnement familial et chaleureux qui entourait les vagabonds et les routards qui souvent étaient invités au petit-déj le matin quand je sortais le nez de ma tente. Il y avait des familles d'un peu partout en Iran, en plus quand c'était les grandes vacances. Quand je visitais des villes du Nord, il y avait souvent des Iraniens qui étaient du Khuzestan ou de Bouchehr qui fuyaient la canicule, qui visitaient de la famille souvent dans le Nord et qui en profitaient pour faire un peu de tourisme et qui étaient là encore le matin et qui étaient en train de préparer des œufs au plat et qui avaient quand même eu un peu froid dans la nuit parce que les nuits sont fraîches.
C'est important de dire que c'est ça aussi l'Iran.
Bah, c'est ça surtout l'Iran. Je parle peut-être un peu trop vite. On verra comment se passe la libération, si elle arrive. Mais moi, ça me donne d'autant plus d'envie et de rage de défendre cette culture iranienne qui a tellement été invisibilisée ces dernières décennies par un contexte politique et dictatorial. J'ai l'impression qu'ils subissent la double peine, en fait.
L'autre chose dont vous m'aviez pas parlé, c'était la visite de vos familles au président de la République. Vous me l'aviez annoncé et je ne sais pas ce que ça a donné.
Oui, écoutez, oui, ils ont été reçus à l'Élysée lundi 17. Donc ça a permis apparemment au président de la République de leur donner un peu des détails sur les stratégies qui avaient été mises en place depuis 3 ans, les différents leviers de négociation dont ils avaient fait usage. Moi, on m'en a fait un compte-rendu assez succinct par téléphone. Je pense que certaines choses qui ont été expliquées l'ont été à condition qu'elles restent un peu à huis clos. Mmh. Et en tout cas, surtout pas sur une ligne sur écoute par les autorités iraniennes. Donc, j'en sais pas beaucoup. Mais ce que je sais, c'est que le président s'est pas engagé sur une date précise de libération et qu'il n'a pas caché son pessimisme par rapport à la situation de Jacques et Cécile en particulier. Mais à part ça, vous savez, moi, on m'a toujours dit que je serais le dernier informé. Ça fait 2 ans et demi qu'il y a des négociations en cours. Bon, je pense avec des phases d'accélération et de ralentissement. Et on m'a toujours dit que une des lignes de communication de la diplomatie, c'était surtout de ne pas créer de faux espoirs aux familles et aux otages. Donc on sera vraiment parmi les derniers informés. Moi, je me suis toujours attendu à être préparé à ce que les autorités pénitentiaires passent leur petit message là au micro et disent « Olivier, fais tes affaires ».
Et votre projet de grève de la faim pour Jacques et Cécile, vous en êtes où?
Bah écoutez, il faut réfléchir parce que c'est vrai que la seule chose que je pourrais faire pour Jacques et pour Cécile, ce serait d'entamer une grève de la faim avec pour motif l'inhumanité de leurs conditions de détention et d'avoir pour objectif de leur permettre d'avoir des conditions de détention améliorées, c'est-à-dire en gros de la case renseignement passer à la case prison. Mmh. Mais à chaque fois que j'ai mes proches au téléphone, on en discute. Et je pense qu'on va un peu changer de stratégie, en fait. Donc je pense que cette grève de la faim, on va tout de suite la formuler en termes absolus, c'est-à-dire notre libération à tous les trois. C'est un peu notre dernier recours collectif.
D'accord.
Sans aucune certitude que ça fonctionne. Peut-être que j'aurai une attaque cardiaque avant. Mmh. Le but, c'est de conserver sa santé, parce que, autant que possible, même si c'est elle qui est en jeu et c'est elle qui permet de mettre la pression, mais de toute façon, moi, je pense qu'ils seront très anxieux dès le début et que s'il y a manque d'implication et relative ignorance de la part des autorités pénitentiaires, ce sera juste pour essayer de me faire croire que ça sert à rien que je fasse une grève de la faim parce que tout le monde s'en fout ici. Ça, ce serait une stratégie. Je pense que dès le premier jour, ils seront extrêmement inquiets. D'autant plus que ce sera dans les médias. Donc tout est entre les mains des preneurs d'otages et du gouvernement français qui négocie avec eux depuis 2 ans et 9 mois pour Jacques et Cécile. semaine qui vient, je la vois vraiment un peu comme les derniers préparatifs et le calme avant la tempête. Et puis surtout, l'occasion de faire des choses que j'aurais peut-être plus l'occasion de faire une fois ma grève de la faim entamée. Du sport. Aussi des activités intellectuelles un peu intenses qui, j'ai peur, seront un petit peu mises entre parenthèses avec la chute de mon apport en sucre. Du coup, c'est une période assez gaie et assez légère, en fait, paradoxalement. J'attends de savoir quand mes proches seront prêts et qu'ils estimeront que c'est le bon moment pour en parler dans les médias. Et à ce moment-là, je commencerai.
D'accord.
Bon, je pense qu'on a encore une petite semaine devant nous.
Donc vous êtes vraiment déterminé ?
Je ne vais pas changer d'avis, je pense pas, non.
Vous avez un suivi médical ?
Le suivi, il est à la mesure de l'anxiété des ravisseurs. Donc ça ne dépend pas de nous. Moi, je pense qu'avec l'ambassade, on va chercher à mettre en place un petit suivi téléphonique si mes ravisseurs me laissent l'accès au téléphone et c'est pas de me mettre la pression pour que j'arrête ma grève de la faim en me coupant l'accès au téléphone. Après, il y a aussi des médecins qui sont dans mon entourage carcéral, qui sont détenus. Par exemple, on a de quoi prendre la tension.
Et si vous pouvez, vous continuerez à m'appeler ?
Ah oui, bah, dans un sens, j'aurai plus de temps qu'avant. Hein, donc, j'aurai peut-être une voix un petit peu plus calme, voire diminuée, mais mon cerveau sera un peu fatigué, donc je ne sais pas de quelle façon je répondrai à vos questions. Mais... Bon, on a encore le temps d'en parler.
D'accord.
Avec, de ma part, un cerveau irrigué, convenablement alimenté en sucre.
Bon, je vous souhaite une bonne fin de semaine, Olivier, et on se parle mardi ?
Mardi, 11h30 ?
Ouais, mardi, jeudi, 11h30, on continue.
J'espère.
J'espère aussi. Je vous embrasse. Bon courage, n'en faites pas trop non plus. Préservez-vous, Olivier.
À mardi, au revoir, Sonia. Merci beaucoup.
Au revoir. Le mardi qui a suivi, c'était le 18 mars. Et à 11h30, le téléphone n'a pas sonné dans ma petite cabine à Radio France où j'enregistre les appels d'Olivier. J'ai attendu jusqu'à midi et rien. Évidemment, je me suis inquiétée. Avait-il commencé sa grève de la faim, été transféré en 209, comme il dit, pour désigner les cellules au secret des services de renseignement? Que s'est-il passé? Le mercredi, le lendemain, j'ai écrit à la personne de son comité de soutien qui fait la liaison avec moi. Et elle m'a répondu « Il semblerait qu'il y a un souci avec l'opérateur pour l'international. Je ne sais pas ce qu'il en est pour demain. Je vais vérifier. » Mais le lendemain, le jeudi 21, le jour du nouvel an iranien précisément, quand je me suis réveillée, mon téléphone était plein de messages sur toutes les applis et d'alertes partout. Olivier était en France. Il avait été libéré quelques jours plus tôt, mais ça n'était officiel que depuis ce matin-là. Il faisait la une de tous les journaux, il portait un beau t-shirt Britney Spears. Macron s'est réjoui, a remercié la cellule de crise et tout le monde s'est félicité. Rien n'a filtré cependant sur les éventuelles contreparties accordées par les Français, si ce n'est une drôle de coïncidence relevée par Armin Arefi dans Le Point. Évidemment, c'était un grand bonheur et un grand soulagement. Sauf que voilà, moi, j'avais rendez-vous au téléphone avec Olivier à 11h30 ce jour-là. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Alors on a fixé un nouveau créneau. C'était un jeudi à 11h30. Allô ?
Oui, allô Sonia, bonjour.
Donc c'est pas bonjour, c'est Olivier à Téhéran. C'est bonjour, c'est Olivier.
Oui, mais du coup, je sais plus quoi dire.
Ben, vous êtes où?
Ben, je suis dans ma petite chambre d'hôpital.
Ah, vous êtes à l'hôpital?
Ouais. Ben, ils font quand même une petite batterie d'examens de sang et tout ça. Et puis j'ai quand même des rendez-vous psy tous les jours.
D'accord.
Donc, c'est bien.
C'est vrai, ça vous va?
C'est aussi à ma demande. Enfin, je me sens pas trop de sortir de ce cadre pour l'instant.
D'accord.
Voilà. Je suis entré c'est le jour de la Saint-Patrick, le 17,
d'accord,
au soir.
D'accord.
Ça a été officiel le 20. Enfin bon, voilà.
Bon. Et vous pouvez me raconter si ça s'est passé exactement comme vous y attendiez, c'est-à-dire tout d'un coup on est venu vous chercher et vous avez été libéré sans qu'on vous prévienne ?
Oui, c'est ça. Et il était, je sais pas, 15h, 15h30. J'étais en train de verser du café instantané dans mon gobelet. Et j'ai jamais pu le boire, ce café. On est venu sur le pas de la porte de mon dortoir. On m'a fait signe de venir. C'était un peu l'heure de la sieste, donc on chuchotait. Et voilà, quelqu'un, un des prisonniers qui aidait à l'accueil de mon secteur, m'a dit « il faut que tu fasses tes affaires, ils veulent t'envoyer en 209 ».
Mais non.
Dans les locaux des services de renseignement, comme Jacques et Cécile. Et donc, j'ai foncé sur le téléphone. Par chance, personne n'appelait à ce moment-là. Et j'ai essayé d'appeler l'ambassade, qui ne répondait pas. Alors, j'ai appelé ma mère pour lui dire qu'il se passait un truc, pour savoir si elle était au courant de quelque chose. Donc, elle m'a dit que non, mais qu'elle allait faire passer le message. Et puis après, j'ai commencé à faire mes affaires. C'était très bizarre, parce que après, ils sont revenus vers moi, ils m'ont dit « Non, non, en bas, les gardiens disent que c'est parce que t'es libre. » Mais bon, comme ils avaient commencé par dire 209, c'était quand même très bizarre. Et puis, de toute façon, les gardiens, ils disent ce qu'on leur dit de dire, donc ça avait aucune valeur. Il y avait pas mal de gens dans mon dortoir qui étaient très optimistes pour moi. Et donc, ils me faisaient des vrais adieux. Et moi, j'étais un peu sur la réserve en leur disant, mais si vous savez, si ça se trouve, je reviens dans 3 jours. Si ça se trouve, je suis transféré dans une autre prison. Enfin, n'exultez pas pour moi. On me disait quand même de faire mes affaires. Donc, ça voulait dire que c'était pas juste 3 jours de garde à vue avant de revenir. Bon, et puis en fait, vous dites, bon, bah de toute façon, j'ai pas le choix, donc je fais mes affaires, je fais vite le tri de ce que j'ai envie de laisser là-bas, et voilà, des vêtements, de tout, du chocolat, il y a tout ce qu'on laisse pour les copains. Mmh. Voilà. Moi, je pense qu'on est venu 5 ou 6 fois me dire, mais tu sais, ils attendent, hein, ils nous mettent la pression, mais ils attendent en bas.
Ah ouais.
Je dis là, oui, bah écoutez, ça fait 2 ans et demi, donc ils vont bien patienter 5 minutes de plus. Descendu. Au pied du bâtiment, il y avait une voiture qui m'attendait. Donc déjà, ça voulait dire que j'allais pas en 209, puisque 209, c'est à 50 mètres de mon bâtiment. Donc on a mis mes sacs dans le coffre et n'ont pas donné de bandeau sur les yeux. Le protocole avait quand même l'air assez relâché. Dans la voiture, il y avait un chauffeur et un agent des renseignements. On est parti. Ils ont fait une halte un peu à un autre bâtiment sur le chemin de la sortie des vignes pour prendre mon passeport et mon sac à dos. Moi, j'observais tranquillement, un peu genre, je prenais tout en compte sans exulter, quoi. Je me disais, ah, ça c'est un bon signe. Ah, ça c'est neutre, mais c'est pas un mauvais signe non plus. Voilà, j'essayais un peu de faire la part des choses. Et surtout, je ne leur demandais pas où on allait.
Ah bon, mais pourquoi ?
Bah parce que j'avais pas envie d'angoisser à l'avance si on allait ailleurs que vers la libération. Et je les laissais plutôt un petit peu parler entre eux parce qu'ils parlaient persan et donc ça me donnait des petites bribes d'infos quand même. J'ai cru comprendre qu'on allait à l'aéroport. Pendant une demi-heure, on était sur le périph' à Téhéran et enfin déjà, c'était incroyable comme vision, moi je sortais jamais. Donc rien que voir le périph' et des barres d'immeubles, c'était magique. Et au bout d'une demi-heure, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais hyper positive, quoi. Enfin, je me disais, ah là là, dire que je serai là-bas pour mon anniversaire, parce que c'est fin mars, mon anniversaire. Et d'un coup, je me suis dit, mais attends, arrête, c'est hyper dangereux ce que t'es en train de faire là, Olivier. Imagine, t'es juste transféré dans une autre prison ou dans une autre ville, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Donc je me mettais un petit peu les garde-fous à la dernière seconde. Et puis à un moment, sur le périph', on a vu des panneaux qui signalaient l'aéroport de Mehrabad. Et moi, à chaque fois que j'ai été transféré de Shiraz à Téhéran et de nouveau à Shiraz, on prenait l'aéroport de Mehrabad. Et du coup, réestimation à la baisse de tout ça, j'ai grave balisé parce que d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais où on va est-ce que je suis juste, pour une raison ou pour une autre, transféré à Shiraz, etc. Et puis, il est arrivé, hein. Et là, on s'est pas garé sur le parking un peu dépose-minute, comme d'habitude. Trois fois, j'avais vécu ça, donc voilà. À la place, ils sont entrés dans un hangar. On s'est garé. Là, le mec a passé un coup de fil. Et puis, il a donné un bandeau pour les yeux à son camarade chauffeur. Donc là, de nouveau, genre gros pic d'angoisse. Il était de couleur noire et en fait, tout de suite, quand je l'ai vu de loin avec les deux élastiques, je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est un bandeau ». Parfois, ils se servent de masque sanitaire noir s'ils n'ont pas de bandeau dans la poche, ouais. Pour nous passer quand même sur les yeux. Donc, quand j'ai vu qu'il l'utilisait, qu'il le mettait à sa bouche, je me suis dit « Bon, ok, calme ». Et puis, ils ont ouvert un autre portail dans le hangar et j'ai vu au fond qu'il y avait des gens en costume avec des minivans et tout ça. Il y avait beaucoup de gens en costume. Genre, ça faisait vraiment accueil beaucoup plus officiel qu'un transfert effectué par deux, trois agents des renseignements, quoi. Et ça faisait assez peu civil, alors que ils prétendent toujours être en civil quand il y a un transfert. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vu.
Des Occidentaux en costume ou des Iraniens?
De loin, je ne savais pas.
Ouais.
On m'a fait descendre de voiture et puis... Il y avait des Iraniens et puis il y a un moment où il y a des Français de l'ambassade qui m'ont accueilli, qui m'ont fait entrer dans un des préfabriqués. On m'a dit « Bonjour Olivier, on est de l'ambassade ». Ils avaient un grand sourire et ils m'ont dit « Viens avec nous ». Et puis c'était bon. On a pris un petit van qui nous a amenés au pied de l'avion médicalisé. Et moi, j'étais là. Alors, est-ce que mes sacs, ils vont en soute? Parce que j'aimerais bien quand même prendre un livre pour le vol. Et puis j'ai cette petite moustache que j'aimerais bien pouvoir raser pendant le vol. Est-ce que j'ai droit à un rasoir jetable? Et tout le monde était là. Monte dans l'avion. On verra plus tard. J'ai dit « Ah oui, d'accord ». Et je suis monté dans l'avion et il y avait quelqu'un de la cellule de crise. Et il y avait deux urgentistes et puis les pilotes. À un moment, on parlait, l'atmosphère était hyper légère. Eux, je pense qu'aussi, ils étaient incroyablement soulagés de voir que la mission était en train d'être accomplie, quoi, qu'il n'y avait pas eu de cafouillage et qu'on était sur le point de décoller. Donc, je pense qu'ils étaient aussi très émus et... Et on discutait un petit peu et il me faisait raconter bien sûr comment ça s'était passé aujourd'hui. Et d'un coup, j'ai tourné la tête vers le hublot et c'était un moment hyper fort parce qu'en plus, il devait être 18h, il y avait le soleil qui se couchait sur l'aéroport, il y avait un ciel tout enflammé, le soleil disparaissait à l'horizon et nous, on était en train de partir. Moi, j'ai été hyper ému parce que d'un coup, je leur ai dit « Mais attendez, mais moi, c'est un pays que j'aime et on s'en va peut-être pour toujours. » Et voilà, et du coup, j'ai passé un petit peu de temps à regarder quand même l'Iran par la vitre. Et puis voilà, l'autorisation de décoller est arrivée et on est parti. Et puis au bout d'une heure, le pilote nous a dit qu'on avait quitté l'espace aérien de l'Iran. Ils m'ont fait des tests, voilà, je sais pas, une prise de tension et puis un test sanguin préliminaire. Puis tout allait bien et physiquement ça va.
Et le moral ?
Moral, ça va. C'est un peu l'éblouissement de lire les messages des amis, de retrouver ma famille, de c'est hyper fort, assez fatigant, mais parce que la joie, c'est fatigant. Mais c'est très beau. Et puis, le fait d'arriver et d'avoir une semaine où toutes les pelouses fleurissent et où il y a un air de printemps et le ciel est étonnamment bleu pour un mars à Paris. Voilà, de voir l'herbe verte qui sent le printemps et des arbres en fleurs. Et vraiment, j'ai l'impression d'être soutenu par la nature. C'est vraiment très fort.
Bah, je suis trop contente, Olivier, pour vous. Vraiment trop contente.
J'ai eu beaucoup de monde qui a défilé un peu, chacun son créneau à l'hôpital hier. C'était mon anniversaire et là, je vous appelle parce que j'ai demandé à ma maman de venir dès ce matin pour pouvoir utiliser son téléphone, mais j'ai pas de...
Il n'y a pas de téléphone dans la chambre non plus?
Non, non, non. Bientôt, je vais m'installer dans une chambre qu'on me laisse ou, je sais pas, un appart vide et juste m'installer à une petite table et puis écrire au moins la partie du témoignage qui se situe en garde à vue. Et puis... Le 7 mai, il y aura un grand rassemblement si jamais Jacques et Cécile n'ont pas été libérés pour les 3 ans de l'enlèvement. Donc, ce sera peut-être à ce moment-là qu'on se verra en vrai.
Ben ouais.
Vous êtes maintenant une des rares personnes dont je ne connais encore que la voix. Si, si, mais du coup, ce serait super ouais, qu'on se voit là.
Monsieur ?
Oui, attendez.
Oui, je cherche.
Merci. Voilà, c'est l'heure où il faut chercher son plateau repas. Voilà, à trop faire attendre ma psy, parce
d'accord.
que je l'ai un peu maltraitée ces derniers jours. J'avais beaucoup de visites et pas beaucoup de temps dans le psy. Et c'est quand même important, quoi. Il faut quand même que je passe la voir. Bon, je vous laisse. Merci beaucoup.
Merci, Olivier.
Et
à
puis,
très vite.
À très vite.
Allez, je vous embrasse. Au revoir.
Au revoir.
C'était « Je vous appelle depuis la prison d'Evine à Téhéran », le 3e et dernier épisode intitulé « Le dernier informé ». Un reportage de Sonia Kronlund réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci beaucoup au comité de soutien d'Olivier Grondeau, à Karim Katan en particulier, à Inès Bouffartik, Sébastien et à Perrine Kervran. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant. On attend avec impatience, je le précise, de lire la tragédie queer en alexandrin qu'Olivier a commencé à écrire dans la prison d'Evine.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots « journal intime », ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il y a personne qui a des sentiments aussi violents que les mères.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre, d'Adila Benedjaizou et Clémence Gross. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.